Je vous dirais, quand on tournait Chronique d'un été, donc en 60, c'était pas un film de commande, c'est un film de commando. Car on avait eu une autorisation truquée pour aller tourner. Pour quelle raison? Et là, on était malin parce que on avait deux complices, à l'intérieur, trois même, qui étaient Angelo, qui était son copain, et qui étaient des gens que connaissait Edgar Morin, qui travaillait avec Naville sur le travail parcellaire, etc., toutes ces études. Donc c'est nous qui étions les salauds. Et on avait dit aux gens de chez Renault, il y avait un copain qui sortait de l'IDEC, qui faisait les films, il avait fait le plus long travelling du monde à ce moment-là, qui avait 2 kilomètres, c'était tout le long de l'île Séguin. On partait d'une voiture à la rentrée sur la chaîne, et elle s'était terminée au bout. Bon. Et il nous avait dit, oui, il n'y a pas de problème. Or, en fait, nous, on était salauds, parce que les types étaient là. Mais on croyait qu'ils ne nous voyaient pas. À l'intérieur de chez Citroën, il n'y avait pas de lumière. Donc on était forcé de tourner en 35 mm. Donc, tourner en 35, j'avais demandé à Coutard, donc opérateur de Godard, de tourner à l'intérieur. Et là, tout ce qui est tourné à l'intérieur, on ne voit jamais Angelo, on ne voit jamais son copain en train de travailler. Il nous avait demandé qu'on ne les filme pas, sans ça, ils étaient foutus à la porte. Eh bien, malgré tout, et on le voit dans le film, Angelo a été foutu à la porte, car son chef d'atelier, qui le harcelait, comme il disait, qui n'arrêtait pas de le harceler, lui dit « Alors, on fait du cinéma maintenant ?» C'est là que le film s'est fait. Alors, il y a une chose triste dedans, c'est que la guerre d'Algérie ne s'est pas terminée. Les emmerdements au Congo ont commencé. C'était... Bon, la fin de l'espoir et le début de la merde, quoi, disons le truc, carrément. Et on ne pouvait s'en sortir que par le désordre génial de mai 68. Voilà qu'elle est un peu ça.
Longtemps après.
Oui, bah, ça fait 8 ans. Ouais. Alors les jeunes, les très jeunes étaient devenus un peu plus mûrs.
Un peu plus vieux.
Un peu plus vieux. Mais qu'Edgar suivait. Alors, c'est un film dans lequel on s'est disputé énormément, on s'engueulait avec Edgar, qui pensait qu'on voulait faire des fresques sociales. Moi, je voulais faire des portraits. Je partais du principe que, contrairement à ce que disaient Bacon et Durkheim, les hommes ne sont pas des choses. Ils existent, ils peuvent répondre. Donc, de leur donner la parole. Et en même temps, on a eu avec Michel la grande joie de découvrir ici un ingénieur qui travaillait chez Éclair et qui nous a permis, en faisant ce film, de l'aider à inventer la caméra Éclair. On travaillait qu'un prototype qui rayait, qui chauffait, qui marchait pas. On le ramenait le soir au laboratoire, on lui disait ça va pas. On passait le prendre à l'aube le lendemain pour venir retourner le lendemain. C'est-à-dire qu'on tournait avec une caméra qui n'existait pas. C'est quand même extraordinaire.
Mais
et à la fin, il existait.
Mais qui existait à la fin du film.
Ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce film, il y a deux tribus. Il y a la tribu Edgar Morin. Et puis il y a la tribu Jean Rouche. Alors il y a un mélange de deux tribus, très différentes les uns des autres, mais qui, par un espèce de choc des contraires, donnent comme résultat ce film que j'avais du mal à accepter à l'époque, et qui, au fur et à mesure des années, je trouve un film de plus en plus formidable. C'est vrai.
Moi j'étais
dans la tribu d'Edgar Morin, et Edgar Morin, fidèle à sa vision du monde, pensait que que les personnages qui vivaient les situations les plus extrêmes, c'est qu'à travers les extrêmes que se révèle une société. On peut parler comme ça?
Exactement, Dionysia, très bien.
Et donc chacun des personnages d'Edgar étaient des personnages atypiques de la société française, mais qui en même temps révélaient quelque chose de contradictoire ou de aigu, de percutant de cette société. Et la tribu de Jean Rouge, c'était la tribu effectivement qui arrivait d'Afrique, qui faisait se confronter les problèmes de racisme, hein, on peut dire, de racisme. De vision propre à celle de Jean Rouche. Et les deux ensemble, ça a donné ce film très étrange qui s'appelle Chronique d'un été.
Alors, ce film en plus, c'était quelque chose de très important, parce que on peut dire que tous les gens qui ont fait ce film ont eu leur vie complètement bouleversée par le film. Et, bon, prenons un exemple, vous reconnaîtrez Régis Debray, qu'on était forcé de censurer, parce qu'il demandait à tous les jeunes Français de déserter il va aller faire la guerre en Algérie, ce qui n'était pas beau à cette époque. Bon, et puis qui est parti ensuite. Donc voilà, voilà les éléments. Et le producteur qui était un peu inquiet parce qu'on traînait, là, on avait tendance, avec la commensalité, c'était normal, on pouvait bouffer, boire à l'œil, c'est quand même, il fallait
on était mal payé, hein.
Oui, mais on mangeait.
On mangeait.
Eh bien, là, donc voilà les éléments qui étaient bizarres. Moi, je découvrais les usines Renault, je découvrais les ouvriers révoltés.
Nous, on découvrait les Africains.
Ouais. Et alors là, je vais raconter une chose, et c'est pour ça que nous sommes très, très proches. C'est qu'à la fin du film, Anatole avait demandé à quelques amis de venir mettre un peu d'ordre dans notre désordre, dans la salle de montage. On avait demandé d'abord...
Anatole, c'est le producteur.
Alors, il avait demandé d'abord à Lénart, un homme sérieux, pasteur, derrière, etc., mais un homme de cinéma... qui dit c'est pas mal, le seul comme ça c'est bien. On avait demandé à Henri Storck qui nous avait dit arrêtez le montage tout de suite, c'est parfait. Si vous touchez à partir de maintenant, c'est pas bien. Et on avait demandé à Yoris Ivens. Alors on demande à Yoris Ivens s'il voit le film et à la fin on lui demande qu'est-ce que tu penses. Et Yoris, d'une voix timide, comme un petit garçon, me dit qui est la ravissante jeune femme qui est dans ce film. C'était Marceline. Et ils ont vécu un immense amour. Alors, ça, quand même, un film qui donne ça. Allez.
Merci, Jacques.
Alors, si tous les protagonistes du film. Si...
C'est pas tout à fait faux ce que j'ai dit.
C'est absolument juste.
Et tu vois ce que j'ai perdu.
Et toi, qu'est-ce que tu.
Alors, voilà, j'aurais demandé.
Moi, je t'ai berlué.
Michel. Je t'ai comme traîné.
Je savais pas tout ce que vous venez
de dire. Je savais pas.
Non, j'arrête de m'en douter, mais...
mais je voudrais poser une question à Michel.
C'est trop jeune,
non, c'est... Tu viens de dire que tous les protagonistes de ce film ont été changés à la fin du film.
Ah ben oui,
je voudrais savoir le cas de l'homme derrière la caméra.
Moi, je viens d'un pays lointain, et puis, on faisait des gamineries avec des caméras à Montréal, mais de pouvoir venir à Paris, c'était le rêve pour moi, et puis... Ça m'a, j'ai participé avec Jean et j'ai connu la maison Angenieux, j'ai connu Stéphane Koudelski qui est l'inventeur du Nagra, j'ai connu M. Coutin avec qui on travaillait à la caméra et qui allait, quelques années après, nous donner la merveilleuse éclair qui a été la caméra de tout le cinéma direct dans le monde entier. À la fois chez les Américains, il n'y a pas eu d'autres caméras. Tout le cinéma direct était fait par cette caméra qui est issue de notre travail. Ça, c'est absolument exceptionnel. Cette caméra a même été le plus gros exportateur de la France pendant quelques années. C'était...
On n'a touché aucune évidence, d'ailleurs.
Non,
mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, ça s'est transformé. Il y a, Éclair a formé Jean-Pierre Bouviala qui s'est séparé, qui a fabriqué l'Aton et avec qui on continue à travailler. C'est-à-dire, tout ça a été une aventure absolument extraordinaire pour moi, qui était à Montréal et qui avait l'occasion de venir ici. Et je suis retourné, et quand je suis retourné à cause de ce que j'ai fait ici, j'ai fait un autre film avec Pierre Perrault qui s'appelle Pour la suite du monde, et là, je pouvais avoir cette énergie que j'avais collectée ici et que j'avais ramassée et que je savais qu'on était sur la bonne piste et qu'on pouvait foncer, même avec les caméras qui n'étaient pas tout à fait prêtes. Et on est parti sur l'île aux Coudres et on a fait ce grand film dont je suis aussi fier encore aujourd'hui.
Je crois qu'on peut dire que ce film a joué un rôle très important dans le développement aussi de ce qu'allait devenir la télévision, puisque toute la notion de cinéma direct est venue de ce film. Voilà.
Il
y a une autre petite chose qu'il faut mentionner, c'est la naissance du mot, tout le monde a entendu parler du mot cinéma vérité, et c'est né à l'occasion de Chronique de l'été. J'étais là, je m'en rappelle assez bien, je l'ai dit tout à l'heure, Jean parlait souvent de cinéma vérité de Dziga Vertov, mais il y a tout à coup un publiciste qui, en voyant les roches, s'est dit, je sais comment il faut faire, il faut mettre des papillons sur l'affiche de Chronique de l'été, il sera écrit, c'est la première expérience de cinéma vérité. Bon, quelques années après, Mario Ruspoli a dit, non, c'est abusé du mot vérité, c'est pas tout à fait la vérité, il faut appeler ça du cinéma direct. Mais c'était un mot qui est très important dans l'histoire du cinéma, il est né à l'occasion de Chronique de l'été.